préviens tout de suite, aujourd'hui ça va parler un peu cinéma, mais c'est surtout une émission pour les gens qui suivent régulièrement le pire podcast cinéma. Voilà, ce sera pas mon émission la plus vue, mais c'est sûrement une de celles dont je serai le plus content.
Allez, c'est...
Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, et ce depuis une centaine d'épisodes, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. C'est la 100e de l'émission, wouhou! Et du coup, aujourd'hui, c'est spécial, je vous montre l'envers du décor. J'ai tourné un making-of du pire podcast pendant l'émission de mercredi, de quoi répondre à toutes vos questions et vous faire vivre sa création de l'intérieur. Vous inquiétez pas, on parlera quand même cinéma, parce que dans la version audio, on abordera la possibilité de fermeture d'un des derniers cinémas des Champs-Élysées, et dans la version vidéo, les trailers à ne pas rater cette semaine. Et comme tous les vendredis, il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler du cinéma de Denis Villeneuve d'avant Dune 2. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, toujours avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission. Ouais, vous connaissez le principe. L'émission, elle existe en podcast, elle existe sur YouTube. Il y a du contenu exclusif suivant les deux plateformes. Vous pouvez vous abonner. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. C'est la 100e. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit truc spécial. On y va? Allez, c'est parti pour le sujet du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Le pire podcast cinéma atteint aujourd'hui sa 100e émission, et avant même de commencer de raconter des trucs, merci beaucoup. Merci à tous ceux et celles qui suivent l'émission, et ce depuis le début. Je vous vois liker, je vous vois commenter, je vous vois partager, je vous vois réagir sur chacune des émissions, que ce soit en audio et en vidéo, et merci énormément, parce que je lis tout, je lis absolument tout, et majoritairement, quand c'est pas des débiles, majoritairement, je vous promets que tout me touche énormément. Je me souviens des commentaires de quand j'avais annoncé que j'allais faire cette émission sur la chaîne, et qu'il y a des gens qui disent « Il tiendra pas 3 mois !» Bah, on s'approche quand même très sévèrement de l'année, là, quand même. Faut dire qu'on a déjà vécu pas mal d'aventures ensemble. Il y a eu tout l'arc sur la grève qui s'est terminé avec une bouteille de Prosecco. Il y a maintenant la situation où cette émission m'a fait perdre mes cheveux. Non, et il se passe des trucs, hein. Puis même d'un petit truc fait tout seul, ben aujourd'hui, j'ai été rejoint par Andrew chaque semaine. Et même d'un petit micro-trottoir qui était fait un peu à l'arrache, on est aujourd'hui passé au bistrot d'Andrew qui demande une équipe technique de plusieurs personnes pour pouvoir se réaliser. Ce qui me permet d'ailleurs d'embrasser Andrew, qui me permet d'embrasser aussi tous les gens qu'on travaille sur cette émission, que ce soit Valentin, que ce soit Romain, que ce soit Paul, même récemment. Merci à tous. Et si cette émission, elle prend de l'ampleur, bah, c'est aussi parce que vous la suivez, que vous la regardez plusieurs fois chaque semaine. Et encore une fois, bah, merci beaucoup. Et du coup, pour cette occasion spéciale, je vous avais filé lundi un formulaire où, qu'il était possible de remplir pour pouvoir poser une question en rapport avec l'émission. Et j'en ai reçu une centaine. Et en lisant toutes les questions, je me suis rendu compte que il y en avait quand même beaucoup qui se répétaient. C'est pas du tout une critique, hein. C'est juste qu'il y avait des questions qui revenaient sur, comment ça s'écrit? D'autres qui parlaient du tournage, d'autres qui parlaient du montage. Et je me suis dit qu'au lieu de répondre à ces questions-là, bah, j'allais plutôt vous le montrer. J'ai donc fait un petit vlog. Ouais, voilà. C'est ça le truc spécial. Aujourd'hui, on fait des vlogs. Exactement. J'ai fait un vlog qui suit une journée entière de création d'émission, et je l'ai tourné pendant l'émission de mercredi. Si vous l'avez pas vu, on parle du Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Bah voilà. C'est la fabrication de cette émission-là. Ça devrait répondre à pas mal de vos questions, et ça risque peut-être d'être un moment étrange pour les personnes qui écoutent l'émission en audio. J'ai essayé dans cette partie vlog d'être un maximum explicatif. J'y raconte plein de choses, j'y explique plein de choses. Normalement, ce sera plutôt facile à suivre, même en audio. Vous me direz si ça passe, et si jamais vous dites « Attends, il a quand même pas répondu à certaines questions », et ben après cette partie vlog, j'ai gardé quelques questions où il faut que je vous fasse une petite réponse. Ce sera rapide, hein, ce sera en speedrun. Sauf une question qui a été posée, et où là, j'ai besoin de votre avis. J'en parle après le vlog, mais ouais, celle-là, j'ai besoin de savoir si vous êtes d'accord ou pas. Vous vouliez des coulisses, si tant est qu'on puisse appeler ça des coulisses. Alors c'est parti. Allez, qu'est-ce que c'est que un pire podcast?
Il est 9h du matin. C'est déjà un miracle que je commence à bosser à 9h du mat. Mais allez, allons-y avec ça. 9h du mat à Montréal, ça veut dire qu'il est 15h en France au moment où je commence à bosser sur l'émission, qui sortira donc à 7h du matin en France. Et actuellement, j'ai rien du tout. C'est-à-dire que l'émission ressemble à une page blanche. Je sais même pas encore vraiment ce dont je vais parler dans l'émission, pour être tout à fait honnête. L'avantage, c'est qu'on est mercredi, et le mercredi, il y a des étapes qui sont récurrentes, à savoir que dans la partie audio, je vais parler des résultats du box-office, et que dans la partie vidéo, je vais parler des sorties de la semaine. Pour le box-office, j'ai déjà tout en stock depuis 24 heures, donc je sais déjà à peu près comment je vais réussir à agencer mon truc et dans quel ordre je vais parler de chaque film. Pour la partie sortie, j'ai même pas encore regardé ce qui sortait cette semaine en France, pour être tout à fait honnête. Faut que j'en garde 3, j'ai déjà parlé dans la critique de La Salle des Profs. Du coup, je vais parler de Imaginary, c'est sûr, parce que ça, je vais en faire la critique la semaine prochaine. Je vais parler de Comme un fils, qui est le nouveau film de Nicolas Boukrieff, et c'est assez rare d'avoir un film de Nicolas Boukrieff pour en parler. Et probablement de La vie de ma mère, parce que j'adore Agnès Jaoui, je pense que ça fera partie des trois. Et Boléro, malheureusement, j'en parlerai derrière, même si ça va être une grosse sortie, Boléro. Et on va encore me prendre la tête après, on va me dire, oh oui, tu parles pas des grosses sorties, je parle des films qui m'intéressent, pas ma faute si quand ça sort sur 700 salles, c'est pas intéressant. La caméra avait coupé, putain, j'ai une bonne idée de con aussi de vouloir filmer en même temps du making. C'est une super bonne idée. Du coup, j'ai toute la deuxième moitié d'émission et maintenant, il faut que je trouve la première partie. Il faut que je trouve ce dont je vais parler dans la première partie, sachant que faut que je trouve un ou deux sujets qui me permettent de parler pendant environ... J'ai timé la première partie, on tape souvent autour des 18 minutes. Et le problème, c'est que vu que tout le monde parle de Dune en ce moment, l'actualité, elle est maigre. Donc, on va aller chercher sur des sites américains, on va aller chercher sur des trucs qui font un peu débat et puis... On va trouver. En gros, entre la recherche des sujets et le moment où je vais commencer à tourner, comme je disais, là, il est 9h, je vais tourner, je pense, à 14h. Et je pense qu'il va me falloir, en comptant la bouffe au milieu, mais il me faut vraiment 4 bonnes heures pour réussir à écrire toute l'émission et pouvoir faire le truc. Parce que, comme je disais, actuellement, l'émission est une page blanche, mais j'écris tout. Ça, vous le verrez après. Voilà. Bon, on va trouver un sujet. Voilà, on va chercher. C'est parti. Bon, il est 10h et il faut se rendre à l'évidence qu'il n'y a que deux sujets vraiment importants dans les discussions actuellement sur les internets. Le premier, c'est la bande-annonce du Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney. Ça, il y a des choses intéressantes à raconter autour et je pense que je peux faire un sujet plutôt intéressant sur les films français qui adaptent du Alexandre Dumas en ce moment. Et l'autre, c'est Mathieu Kassovitz qui veut péter la gueule à Saïd Tagmaoui. Pourquoi? Je me souviens de l'époque où on me disait « Ouais, après la grève, est-ce que t'auras encore des choses à raconter ?» Visiblement, oui! Il y a Saïd Tagmaoui qui veut pas se battre avec Mathieu Kassovitz. Quel enfer! Du coup, il est 10h, il va falloir se mettre très sérieusement à écrire, parce que sinon, je vais être bien à la bourre. Et on n'a pas envie d'être bien à la bourre. Du coup, maintenant, c'est parti pour l'écriture. Il est 10h45, ça fait 45 minutes que je suis censé écrire et j'ai toujours pas commencé parce que j'arrive pas à trouver l'inspiration et le truc pour me lancer, parce qu'il faut écrire des blagues, il faut écrire du rythme, ouais, tout ça, c'est un peu chiant. Et du coup, je me suis lancé sur la miniature et c'est plus compliqué. Oh merde, avec ce making-of, vous voyez à quel point c'est le bordel dans mon bureau. Parce qu'en fait, l'exercice le plus compliqué avec le pire podcast, c'est qu'il faut reproduire le schéma de donner envie aux gens de regarder ce que tu fais 3 fois par semaine. Et ça, c'est le plus lourd, surtout quand il s'agit de la miniature et de sujets qui sont pas toujours les plus sexy. En vrai, le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney, le sujet est plutôt cool, mais pas encore assez connu dans la tête des gens pour réussir à leur dire « Tiens, j'ai envie de cliquer pile sur ce truc-là ». Donc comment tu le tournes de manière à donner envie aux gens de venir cliquer? Sinon, je fais juste une miniature où c'est Mathieu Kassovitz et Saïd Tagmaoui qui veulent se péter la gueule. Peut-être. Non, mais je pense que je peux faire un truc sympa avec ça. C'est juste que j'ai pas encore trouvé par quel angle le faire. Et ça me bouffe du temps dans ma journée. Voilà, super. 11h26 et la miniature est terminée. Voilà, ça a pris beaucoup de temps à galérer, à trouver quoi faire. Puis au final, je me suis dit que c'était rigolo d'avoir un Pierre Niney au milieu et puis d'avoir un petit Adam Sandler dans le coin parce que c'est quand même le même truc que ce dont on parle dans l'émission. J'essaie de faire des montages un peu rigolos pour les miniatures. Le problème, c'est que vu que je fais tout seul et qu'il faut le faire 3 fois par semaine en même temps que t'écris l'émission, du coup, c'est toujours un petit peu compliqué. On essaie de trouver l'entre-deux. Là, je lui ai rajouté des trucs comme dans la bande-annonce de Monte Cristo avec une cicatrice et tout. Mais bon, je ne suis pas mini-maker professionnel. Je fais mon max. Maintenant, il faut que cette miniature-là, je l'exporte dans le format YouTube, mais aussi dans le format podcast et aussi dans le format story pour pouvoir faire la com derrière. Et après, il est quand même 11h30. Il va falloir commencer à écrire, quoi. Parce qu'en France, il est 17h30 et que l'émission sort à 7h le lendemain. Bref, voilà. Allez, on se dépêche. Il est 11h37 et je ne peux pas écrire la question du public parce que je n'ai plus accès aux questions du public. Instagram a décidé d'être down. Du coup, on va écrire d'autres trucs en attendant. On va espérer que le site revienne, sinon la question du public, ça va être super. J'adore bosser en flux tendu. Allez, let's go. 13h12 et je suis extrêmement à la bourre. Du coup, j'utilise la technique que personne ne comprend à part moi, qui est que pour travailler, je m'enferme dans la salle de bain. Oui, je sais, ça a l'air absurde dit comme ça. C'est juste que l'ordinateur sur lequel je travaille habituellement, c'est un ordi avec 2 écrans. Et je suis difficilement focus sur ce que je fais. Je suis toujours perturbé, je lance une vidéo YouTube en même temps. Et du coup, j'avance pas. Et je travaille pas assez vite. Là, j'ai juste mon ordi avec le texte. J'ai déjà écrit toute la deuxième partie d'émission. Il reste plus que les deux premiers sujets, en fait. Ça fait déjà 6 pages. Voilà. Et maintenant, on part en speedrun parce que j'avais dit que je tournerais à 14h. Il est 13h15. Je vais jamais tourner à 14h, donc je vais finir trop tard. Et ça fait chier parce que j'ai un truc ce soir. Voilà. Puis merci les journées 9h, 22h. Allez, let's go, on y va. Oui, t'es un petit chien parfait, mais c'est compliqué là. C'est vraiment choisi la bonne place, me dis donc. Il est 15h, j'ai une heure de retard sur le planning, mais ça va, on n'est pas particulièrement en retard. Toute l'émission est écrite, elle fait une dizaine de pages, et maintenant bah, il faut tourner, donc il faut mettre en place le décor, et puis c'est parti. Ça a été l'idée quand on a construit le décor d'avoir justement tout de fixe, les lumières sont fixes, la caméra, des scotch au sol pour savoir où est-ce qu'il faut la placer et tout. Du coup, c'est plutôt pratique, il suffit juste d'allumer les lumières, replacer la caméra, lancer le son, et puis c'est bon, on peut tourner. Si on compte le temps que j'ai pris pour bouffer, l'écriture de l'émission, c'est environ 4 heures, le tournage va prendre une petite heure, et ensuite le montage, parce que ça prend le dérochage, il faut rechercher toutes les images, etc. et tout, il y en a pour 3 bonnes heures derrière. Et ça, c'est sans compter du coup la miniature, le upload, faire la description, tout ce genre de trucs-là, mais qui est la partie facile. Quand on arrive à ça, globalement, c'est que tout est plus ou moins terminé. Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Les gens pensent qu'il n'y a pas beaucoup de montage sur une émission comme ça, mais je me reprends beaucoup, je galère en fait niveau élocution à plein d'instants, et du coup bah, je suis obligé de refaire encore et encore des prises. Si je vous mettais l'émission en entier sans montage, je peux vous dire que ça aurait pas la même gueule. Il y aura aussi la question du public. Il est 16h13, l'émission est dans la carte SD. On a l'impression qu'il fait nuit, mais non. Il fait encore jour, et en France, il est actuellement 22h13. L'émission sort donc dans 9h. Moins de 9h. Faut que je me dépêche de monter. Je profite du fait que les fichiers soient en train de se copier pour répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée, qui était « Ça va, le rythme est pas trop vénère ?» En fait, c'est plus compliqué que cette histoire de rythme vénère, c'est plutôt l'idée de travailler sans filet. La vraie difficulté, en fait, c'est la deadline imposée. À 7h, doit y avoir un épisode qui sort. Point. Et du coup, si à 7h, l'épisode n'est pas fini... Bah t'es baisé. Et donc t'es obligé de faire l'émission sans trop réfléchir. C'est-à-dire que tu dois produire quelque chose qui soit intéressant, mais en même temps, bah tu peux pas te permettre de passer trop de temps à dire « Oui, mais ça, peut-être que si, peut-être que ça. » Non, au bout d'un moment, faut qu'un truc sorte. Point. Ce qui est pour moi une bonne chose, parce que j'ai vraiment trop tendance à tergiverser si j'ai pas de deadline, et je peux passer vraiment 3 jours à dire « Ouais, mais ce sujet, je suis pas sûr, est-ce que blablabla ?» Là, non, j'ai pas le choix. Au bout d'un moment, il y a des sujets évidents, on en parle, on trouve un angle, et puis on avance. Merde. Et du coup, aussi, la difficulté, c'est que bah, des fois, les sujets sont pas si forts que ça. Ou des fois, t'as pas des choses très pertinentes à dire sur tel ou tel sujet. T'essayes de faire ton max, mais t'es pas sûr tout le temps du truc. Là, vous voyez, je vous parle, il est 16h30, et je sais que dans 7h, l'émission doit sortir. Et l'émission est pas montée, mais j'ai pas le choix. C'est bon, j'ai parlé du sujet, maintenant, allez, on le fait, merde. Et encore là, ça va parce que je vous dis qu'il est 16h30, mais il m'est arrivé de tourner certaines émissions à 18h. Et là, bah oui, là c'est rush, rush, rush. Donc pour répondre à la question que j'esquive du coup à moitié dans ma réponse, le rythme est pas vénère dans son ensemble. Le rythme est vénère dans l'unité de faire une émission. Faire 3 émissions dans la semaine, ça se fait, c'est pas la partie compliquée. La partie compliquée, c'est faire une émission en une journée. Ça, c'est la partie rude. Mais je sais très bien que demain, je suis tranquille. Demain, je vais pouvoir jouer à Persona toute la journée, remater des films, et puis être bien, quoi. Mais pour ça, faut passer par gros rush, repos, gros rush, repos, gros rush, repos. En vrai, la partie montage, c'est le moment où je respire un petit peu. Parce que il n'y a plus rien à créer, en quelque sorte, entre guillemets. Les sujets ont été choisis, je sais de quoi je parle, j'en ai parlé, j'ai écrit. Tout ça, c'est fait. Maintenant, c'est OK. Mettre des Lego sur des Lego, j'ai ma timeline, je sais comment elle fonctionne, j'empile, j'expande, je sors. Le montage, c'est vraiment le moment en fait où tu passes en pilote automatique et où tu fais le truc et point. J'ai l'impression de beaucoup me plaindre, mais vraiment pour de vrai, le plus dur c'est l'écriture et essayez de le faire chez vous. Essayez de le faire juste une semaine. Voilà, juste pour voir. D'écrire 10-12 pages tous les 2 jours avec des sujets en lien avec l'actualité, en faisant des recherches, avec tout le bordel. Essayez de le faire 3 jours. Mettez-vous la pression, vous verrez, c'est marrant. Perso, je me plains pas, c'est le rythme que je me suis imposé, c'est grâce à ce rythme que l'émission tient et survit, et pour avoir déjà fait de l'intérim, avoir bossé à l'usine dans des trucs pas rigolos, ça va aller, c'est cool. Je parle beaucoup, il faut que je monte. Allez, montage. L'horloge a tourné, elle a bien tourné, ça aura pris 2 heures, mais voilà, 18h47, il est l'heure d'exporter, c'est parfait, parce que j'ai une soirée dans une demi-heure. Et bah comme ça, on uploadera tout ça avant d'entrer. Wow, bah quelle bonne tête sur l'image, c'est vraiment terrible, bonjour. En vrai, 2 heures pour le montage, ça va, j'ai déjà fait vraiment pire quand il y a notamment beaucoup de recherches d'images, etc. Là, il y en a moins, donc ça allait. Maintenant voilà, on va exporter, et puis on uploadera 2 heures avant que ça sorte, voilà. On va faire ça. Mais franchement, finir avant 19h, hey, c'est une émission qui se passe bien aujourd'hui. C'est incroyable.
Un plateau de stand-up plus tard.
Il est 23h54 et l'émission sort dans 1h05. Et elle est toujours pas uploadée.
Voilà.
Donc, il faut s'en occuper maintenant. Non, parce qu'on rigole et vous suivez le truc depuis 9h ce matin, mais voilà, là, il est quasiment minuit. Et l'émission sort dans une heure, parce que 1h du matin Montréal, ça correspond à 7h du matin France. Mais c'est en train de se ploder gentiment. Et maintenant, on va croiser les doigts pour que YouTube me dise « TKT, les bandes annonces que t'as mis à l'intérieur ne vont pas t'obliger à re-exporter la vidéo. » Voilà. On y est presque. On touche au but. Une journée entière. Il est minuit 15 et c'est officiel, c'est terminé pour l'émission du jour. Je faisais des démonstrations en disant qu'il faisait jour avant, mais maintenant il fait nuit. Voilà, il n'y a plus de lumière qui vient de l'extérieur, plus du tout. Et ceux qui regardent la version vidéo pourront voir que j'ai de la crème au coin de la bouche car je me suis brûlé avec de la sauce algérienne. Voilà. Parce que c'est aussi ça la vie d'un vrai aventurier. C'était marrant de vous faire suivre un petit peu la création de cette émission en mode vlog. Aujourd'hui, c'est rare que je fasse du vlog. Parce que c'est un format dans lequel je suis jamais très à l'aise. J'aimerais en faire, mais je sais juste pas trop en faire, en fait. Mais ça vous a permis de voir, au final, toutes les étapes qui font que une émission se construit et que ça demande du temps, que ça passe par plein de petites choses, les unes empilées sur les autres. Et si je vais conclure ça, en fait, la vraie particularité de faire une émission comme le Pierre Podcast, c'est que il y a un truc quand même chez les créateurs YouTube en général, ou même les créateurs d'émissions, qui est un peu particulier avec cette plateforme. Parce que à chaque nouvelle vidéo, c'est du travail que tu vas offrir au public et t'as un retour assez rapide de la part de la plateforme et même du public de est-ce que ce que t'as fait c'était bien ou est-ce que ce que t'as fait c'était absolument nul à chier. Et t'as des youtubeurs qui genre font une vidéo toutes les deux semaines et toutes les deux semaines ils attendent cette réaction là. Toutes les deux semaines c'est comme s'ils remettaient leur titre en jeu à base de est-ce que cette fois-ci ça va vous plaire ou ça va vous déplaire. Le fait de faire une émission qui sort trois fois par semaine, sa vraie particularité c'est que tu remets ton titre en jeu tous les deux jours. Tous les deux jours, tu peux passer d'une émotion qui est « Waouh, incroyable, cette émission a follement bien marché » à « T'es la dernière des merdes, regarde comme ton émission marche pas, il n'y a plus personne qui regarde, t'es nul. » Ça, ça fait partie des trucs pas rigolos, c'est continuellement te retrouver dans la situation de « Je retente le coup, et puis ça se trouve, ça marche pas, mais c'est pas grave. » Parce que aussi violent soit les retours tous les deux jours, en fait, c'est pas grave parce que deux jours après, tu remets encore une fois ton titre en jeu. Donc ce que t'as merdé il y a deux jours, tu peux le rattraper deux jours après. Et parfois tu sais qu'une émission marchera moins bien. Par exemple, je sais que l'émission que j'ai sortie lundi, elle était sur Dune 2. Là, je sors une émission où c'est pas un film identifié, je suis obligé de faire un titre un peu mystérieux pour espérer du clic. Donc je sais très bien que l'émission que je vais faire là, elle va pas très bien marcher. Ou moins marcher. Ou moins toucher le public. Les réguliers et les régulières sont là et je les remercie énormément de suivre l'émission. Mais j'aurais du mal à toucher un nouveau public ou à intéresser d'autres gens. On va y arriver. C'est un combat que je mène depuis 10 ans sur YouTube, à savoir intéresser les gens davantage au cinéma et leur faire voir d'autres trucs. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Et là, vous le voyez ça un vendredi, et c'est pas grave si même cette émission-là ne fonctionne pas trop. Parce que vous penserez à moi dimanche, quand je revivrai exactement la journée que je vous ai présentée aujourd'hui. Voilà, c'est ma petite routine du Pierre Podcast. Il est minuit 20, je vais aller jouer 40 minutes à Marvel Snap le temps que l'émission sorte, comme ça je pourrai partager les stories et tout. Et après, quand à 7h les Français découvriront l'émission, moi j'irai dormir, comme le nécessitent les cernes que j'ai au coin des yeux. J'espère que ça vous a intéressé cette partie vlog. J'espère que le son était bon, je n'ai aucune idée de ce que je viens de faire, mais et Inch'Allah ça passe. Des grosses bises. Je vais faire comme Andrew, je rends le micro à Victor. Voilà.
Merci Victor du passé, j'espère que ce petit vlog vous a plu et du coup j'ai gardé quelques questions en plus, je vais y répondre tout de suite en speedrun. Premièrement, pourquoi tu dis avec persistance l'actualité de le cinéma alors que c'est une faute d'article partitif ? Je sais pas ce que ça veut dire partitif, par contre je sais que de le cinéma je trouve ça marrant. Deuxième question, est-ce que tu comptes faire des sortes de saisons à ton émission avec des changements de décor, de direction artistique ou rajouter d'autres chroniques telles que le micro d'Andrew ? Je sais pas si on peut parler de saison parce que j'aime bien le décor, j'aime bien tourner à la maison, je sais pas si tout ça évoluera, si je déménage à la limite. Peut-être, voilà. Par contre, oui, est-ce que je réfléchis à d'autres trucs qui pourraient agrémenter l'émission ? Tout à fait, je réfléchis à des trucs, je réfléchis à des gens que j'aimerais bien voir rejoindre l'émission. Je sais pas si ça se fera, j'y réfléchis dans ma tête, je pose les billes pour que ça se fasse et puis ça arrivera si ça doit arriver. Troisième question, pensez-vous avec Andrew organiser éventuellement des bistrots d'Andrew en France à l'occasion ? On aimerait, mais ça coûte tellement d'argent. Comme je disais, le bistrot, on est 4 à bosser dessus. La dernière fois, on était même 6. Et du coup, ne serait-ce que, allez, je réduis l'équipe, on se dit qu'on est plus que 3, c'est quand même 3 personnes dont il faut payer un aller-retour en avion de Montréal à Paris. Juste nous déplacer sans le logement, c'est un budget à 1500-2000 balles. Après, si vous avez cet argent-là, il y a un Patreon qui existe. Avant-dernière question, je me doute que ça risque d'être compliqué avec 3 émissions par semaine, mais t'aurais envie de revenir sur Twitch ? J'aimerais, mais j'ai pas le temps. J'ai déjà relancé un live sur Twitch et je risque de le refaire, mais quand je le ferai, ce sera juste parce que, tiens, là, je me dis, ok, j'ai une heure, j'ai un concept un peu à la con, je peux le faire en live, mais c'est tout. En fait, l'émission du Pire Podcast a remplacé ce que je faisais sur Twitch avant, qui était la matinale où je parlais de l'actualité du cinéma. Du coup, est-ce que j'y retournerai, est-ce que j'y retournerai pas ? Peut-être, mais là, actuellement, j'arrive pas à me libérer assez de temps pour moi, alors pour faire des lives sur Twitch, encore moins. Et enfin, dernière question, c'est là où j'ai besoin de votre avis. Salut Victor, as-tu secrètement le mal du pays puisque tu donnes l'heure de diffusion française, 7h entre autres ? Alors, c'est pas un mal du pays, c'est plutôt le fait que la majorité des gens qui me suivent sont des Français, du coup, je donne l'heure de sortie française qui est 7h du matin. Mais du coup, voilà la question, est-ce qu'on changerait pas d'heure de diffusion ? Je pose la question comme ça parce que sur YouTube, il y a un principe qui est que la première heure de diffusion de l'émission compte beaucoup sur est-ce qu'on va mettre en avant ou pas ta vidéo. Et du coup, si tu fais peu de vues pendant la première heure, ben elle est moins mise en avant derrière. Et moi, ben, je fais ma première heure de diffusion entre 7 et 8 heures, ce qui est pas l'heure où je fais le plus de vues. Je fais beaucoup plus de vues vers 14-15 heures. Et du coup, ben, la vidéo est moins mise en avant, du coup, elle fait moins de vues, du coup, le public grandit pas. Vous voyez le cercle vicieux, en fait, du fait de rester à 7 heures. Bah ça finit avec le temps un peu par bloquer l'expansion. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas le cas, peut-être que si je changeais d'heure on ferait moins de vues, mais pour le coup j'en sais rien. Du coup pas nécessairement pour l'émission de lundi, parce que lundi c'est les Oscars et je veux la sortir dès 7h du matin, mais peut-être que pour l'émission de mercredi ou de vendredi, et peut-être quelques suivantes, j'aimerais faire le test de sortir la vidéo YouTube plus tard dans la journée. C'est-à-dire que le podcast restera à 7h du matin, parce que je pense que le format podcast, c'est un truc qui se consomme bien, par exemple, dans la bagnole, en partant le matin. Je laisse le podcast à 7h du mat, mais je mets la vidéo YouTube, elle, à 14h. Des gens vont évidemment pas être d'accord, et je vois déjà les commentaires de gens pas être d'accord, mais j'ai envie de faire ce test-là. J'ai envie de voir si ça permet aux vidéos de mieux marcher, et si ça change rien et que je me rends compte, bah ok, on fait toujours le même nombre de vues, bah je reviendrai au tout 7h, et puis bonsoir. Mais voilà. Envie d'essayer ça, envie d'avoir votre avis là-dessus. Ce sera pas le cas dans l'émission de lundi, et si jamais je le fais ensuite, je l'annoncerai probablement dans l'émission de lundi en disant « Oh là là, attention, la vidéo YouTube va être décalée par rapport au podcast ». Je l'annoncerai, et au pire, j'en parlerai sur mon profil Instagram, donc suivez-moi, regardez mes stories sur Insta. Bref, c'était beaucoup de réponses, beaucoup de trucs autour du pire podcast, mais c'était l'occasion spéciale pour la 100e. Qu'est-ce qu'on fera pour la 200e ? Où est-ce qu'on sera à la 200e ? Si on m'avait dit déjà qu'à la 100e, je serais en train d'organiser des gros tournages avec une équipe autour de cette petite émission que je faisais tout seul derrière cette table. C'est fou que le temps passe vite, comme disait la chanson, et je suis parfaitement d'accord, et je suis très content de ce qui est en train de devenir le pire podcast, et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. En tout cas, j'ai pas prévu d'arrêter personnellement. Merci encore à vous d'être là, merci de votre soutien, et sur ce, on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine, mais nous, de notre côté, on va parler de salles de cinéma. Et plus précisément, de salles de cinéma sur les Champs-Élysées. Alors oui, c'est très parisiano-centré, mais il faut quand même se rendre compte à quel point les cinémas sur les Champs-Élysées ont été le théâtre d'événements au cours des décennies extrêmement importants. C'est un symbole du cinéma à la française. Et aujourd'hui, quand on parle des cinémas sur les Champs-Élysées, on se dit, bah tiens, il y a quoi comme cinéma sur les Champs ? Ben, il y en a plus beaucoup. Rien que ces dernières années, le Gaumont Ambassade est devenu une boutique Lacoste. En mars 2020, ils ont supprimé l'UGC Georges V. Et fin 2023, c'est le Gaumont Marignan qui a disparu. Ça commence à faire des salles de cinéma qui ferment les unes après les autres sur les Champs. Et le Gaumont Marignan, ça m'avait fait quelque chose au cœur. Parce que le Gaumont Marignan, pour la petite anecdote, c'est une des premières salles où je suis allé en arrivant à Paris. Je faisais des trucs sur les Champs et j'avais du temps pour moi et je me suis dit, tiens, je vais aller au cinéma. Et c'était, ouais, quand j'ai commencé à traîner sur Paris en 2017. Je me rappelle, j'avais vu Jigsaw au Gaumont Marignan, voilà, pour vous dire comme ça remonte. Et ça a été aussi le théâtre d'événements qui ont jalonné un peu mon parcours. Notamment, il y avait un truc qui s'appelait le Show Web, qui était organisé par des distribs qui venaient montrer en avance des trailers et tout. J'avais participé aussi à ce genre de choses-là. Voilà, mais ça commence à remonter et c'est un cinéma où je ne pourrais plus jamais aller puisque le cinéma n'existe plus. Et là, ils viennent d'annoncer que dans les rares cinémas qui restent encore sur les Champs, eh ben, ils allaient encore probablement en fermer un, à savoir l'UGC Normandie, et ce, d'ici le mois de juin. Pour essayer d'expliquer aux gens ce que c'est que l'UGC Normandie, c'est une salle de cinéma qui est magnifique. Mais vraiment, je vous encourage à taper sur internet UGC Normandie, la salle principale. Ils ont des petites salles à côté, mais la salle principale est incroyable. Ça fait 90 ans qu'elle existe et elle a tout un plafond en relief absolument fou. Pour vous dire à quel point symboliquement c'est une salle dingue, c'est la deuxième plus grande salle de cinéma à Paris. Elle fait 865 places. Si vous voulez une salle plus grande à Paris, bah la seule qui est plus grande, c'est le Grand Rex. À part ça, c'était celle-là, la deuxième plus grande salle de Paris. Et du coup, de par sa taille, c'est une salle où s'est organisé énormément d'événements, énormément d'avant-premières, de projections presse. J'y ai vu tellement de films. Dès qu'un gros distributeur voulait montrer un gros film et voulait ramener le tout Paris, il le ramenait dans cette salle-là. J'y ai vu le dernier film Star Wars, j'y ai vu Spider-Man No Way Home à l'époque, j'y ai vu le dernier James Bond. Mon souvenir le plus fou, j'en avais parlé sur Insta, c'est quand il y avait eu l'avant-première de Joker en présence de Joaquin Phoenix et présenté par Nikos Aliagas. Oui, ça s'est produit, j'étais dans la salle. Et où Joaquin Phoenix était trop timide, il se cachait derrière Nikos et tout. C'était vraiment un moment très étrange. J'ai tout ce genre de souvenirs au UGC Normandie, qui, comme je vous dis, est une salle avec une qualité dingue et parfaite pour les grosses avant-premières. Et même les séances en dehors, hein, vous pouvez y aller n'importe quand. Moi, j'y étais allé quand j'avais un peu de temps voir le dernier Michael Bay Ambulance. Et dans cette salle-là, wow, c'était quelque chose. Mais le UGC Normandie est plus que menacé, parce que le groupe UGC ne possède pas les murs. C'est une location. Ce qui est souvent le cas au cinéma, hein, que ce soit des locations. C'était notamment le problème qu'a touché, si je me trompe pas, le Luxor, qui est une autre salle de cinéma à Paris indépendante, et qui, elle, depuis des mois, alerte sur le fait que le bailleur, eh bien, aimerait fermer le Luxor, qui existe depuis des décennies, pour le remplacer par des boutiques et des appartements à la con. Voilà, encore une fois, une salle qui a une cinquantaine, soixantaine, centaine d'années qui va disparaître. Concernant le UGC Normandie, l'annonce est sortie de la part de Alex Huyck sur les réseaux, et qui a annoncé que UGC pourrait fermer sa salle justement à cause d'un problème de loyer trop onéreux. Il faut dire que chaque année, les loyers augmentent à Paris, et concernant les Champs-Élysées, ils n'ont jamais autant augmenté. Et c'est justifié par la porte-parole du groupe UGC en disant que bah, vu qu'il y a une fréquentation en baisse, bah, du coup, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir subvenir au loyer à côté. Alors, je vous précise que rien n'est fait pour l'instant, on n'est vraiment pas sûr. Le truc, c'est que si on parle du mois de juin, c'est pas pour rien. Parce que qu'est-ce qui débarque après le mois de juin ? Eh ben, les Jeux Olympiques. Et pendant les Jeux Olympiques, il a déjà été annoncé que des stations de métro comme la station Champs-Élysées, eh ben, sera fermée pendant cette période. Et du coup, ben, quand tu fermes les stations de métro autour d'une salle de cinéma, ça n'aide pas beaucoup à faire des entrées. Les Jeux Olympiques risquent de signer l'arrêt de mort du UGC Normandie. Et du coup, ben, il restera quoi comme salle de cinéma sur les Champs ? Il en restera qu'une seule. Tout en haut, il restera le Publicis. Le truc, c'est que le Publicis, c'est pas un cinéma qui fait les grosses sorties du moment. Il s'occupe beaucoup de ressorties, de cinéma de patrimoine, de plus petits films. Le UGC Normandie, c'était le dernier représentant sur les Champs-Élysées du grand cinéma populaire, du cinéma qui rassemble, du cinéma qui draine justement un maximum d'entrées. Et ce grand cinéma populaire va disparaître des Champs-Élysées. Et cette idée-là, cette idée de voir le grand cinéma populaire, le grand cinéma qui rassemble, disparaître d'une avenue qui compte autant de gens chaque jour, je trouve ça extrêmement triste. Voilà, je vais suivre le dossier de très très près, mais autant vous dire qu'une nouvelle fermeture de salle sur les Champs, ça me déprime au plus haut point.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question sur l'actualité ?» Et après, je regarde toutes vos questions. Et s'il y en a une où je me dis « Tiens, j'ai quelque chose à dire », eh ben, je la garde. Suivez-moi sur Instagram, ce sera plus simple. Et aujourd'hui, la question nous vient de Félix Lombaedo qui demande « Ça prévoit de faire un film d'horreur sur l'arnaque expérience de Willy Wonka. Est-ce que ça te hype ?» Non. J'ai envie de crever. J'en avais parlé dans une précédente émission, si vous l'avez pas vu ni écouté, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Ça traitait de ce qui s'est passé en Écosse autour de Willy Wonka. Il y a eu une grosse arnaque, on a fait croire aux gens qu'ils allaient pouvoir revivre l'univers de Charlie et la Chocolaterie, et en fait non, ils se sont retrouvés dans un hangar pourri avec trois comédiens et quelques bonbons. Vraiment, c'était d'une tristesse à crever. Globalement, c'est un fait divers, c'est un truc à la con. Un truc à la con qui comporte un détail qu'on peut exploiter. Parce que, au-delà du côté Charlie et la Chocolaterie, tout le scénario de l'événement avait été conçu par ChatGPT, qui a décidé de rajouter des personnages qui n'ont rien à voir avec Charlie et la Chocolaterie au milieu. Notamment un personnage mystérieux dont on avait parlé, qui se cachait derrière un miroir avec un masque blanc, et qui s'appelle The Unknown. Que dire sur The Unknown? Il faisait peur aux enfants. Et puis sinon, on a appris via TikTok, il y a eu le face reveal de qui était derrière The Unknown. Et il s'avère que c'était une gamine de 16 ans qui était là pour récupérer un peu d'argent de poche. Et donc, c'est pas un personnage qui portait une perruque. C'est vraiment ses vrais cheveux. Et la gamine en question, elle est un peu dépassée par tout ce qui se passe actuellement. Parce que il y a des fanarts, il y a des vidéos, ça en parle partout. Elle s'est juste retrouvée une après-midi dans un hangar bizarre et... Ok, d'accord. Ça doit pas être simple. Et je pense que ce sera encore moins simple quand va sortir... un film. Non mais c'est incroyable. Dès qu'il y a un truc un peu marrant qui sort de l'ordinaire, faut toujours que t'aies des gens qui débarquent avec un projet pour faire mourir le fun. C'est ça l'idée. Puis des gens qui disent « Hey, vous avez vu ce phénomène dont tout le monde rigole ? Est-ce qu'on le prendrait pas pour essayer de l'exploiter et faire du pognon ?» Alors que, à la base, là, c'est quand même un phénomène qui est connu pour avoir exploité et fait du pognon. C'est la boucle du cynisme. Parce que oui, tu peux pas adapter stricto sensu l'événement en question, c'est que des trucs en rapport avec Charlie et Chocolaterie. Mais The Unknown, il n'existe pas techniquement, c'est un truc inventé par ChatGPT. On peut faire un film dessus. Le projet a été annoncé par la boîte de production nommée Caledonia. Est-ce que vous connaissiez cette boîte de production ? Non ? Moi non plus. C'est une boîte qui vient de se monter de toutes pièces. Si vous allez sur leur site internet, il y a marqué « Création en 2024 » et leur seul projet, c'est le film The Unknown. Et ils ont annoncé que le film sortira fin 2024, déjà dis donc, et que ça racontera l'histoire d'un illustrateur et de sa femme hantés par la mort de leur fils qui s'appelle, je vous le donne en mille, Charlie. Ils vont tenter d'échapper au deuil en partant s'installer en Écosse, sauf que là-bas, il y aura un mal plus grand qui est The Unknown. Je récapitule donc, une boîte inconnue qui exploite un phénomène de mode pourri et qui essaye d'en faire un film d'horreur en même pas 6 mois. C'était quoi la question? C'était, est-ce que ça me hype? Ben non, ce genre de film d'horreur qui exploite juste des gens pour essayer de se faire du pognon, ça existe depuis la nuit des temps et on a un gros revival avec notamment tout ce qui se passe autour des trucs tombés dans les catégories libres de droit, que ce soit notamment Winnie the Pooh, Blood and Honey. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'envoie une question de manière assez récurrente sur « Hey, est-ce qu'on va avoir une sortie française ?» J'en sais rien et m'en fous. Parce que j'ai vu le premier et je sais à quel point c'est nul à chier. Donnez pas votre argent à ces gens-là. On n'est plus à l'époque de Roger Corman qui arrivait au milieu de films vraiment nazes à faire des petits chefs-d'œuvre avec des trucs tombés du camion. Non, aujourd'hui, on est sur des séries Z assumées de manière dégueu et qui, avec Internet, prennent un essor complètement dingue. Et puis là, littéralement, comme je vous disais, The Unknown, c'est un personnage qui a été créé par ChatGPT. Donc il faut un film sur un truc créé par une IA. Et évidemment que ça fait pas rêver. Donc pour répondre à la question, je regarde ça avec beaucoup de mépris. Pour être très très honnête. Je veux pas critiquer sans avoir vu, encore une fois, mais honnêtement, je doute très très fort que ce soit bien.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, il est l'heure d'un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de film. Non, c'est vous qui prenez la parole. Il suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com et vous pouvez passer dans l'émission. Et aujourd'hui, un auditeur nous a envoyé un audio pour parler de Denis Villeneuve et parler d'un film de Denis Villeneuve que je n'ai pas vu. J'ai vu quasi tous les films de Denis Villeneuve, mais celui-là, ça fait partie des rares que j'ai pas vu, et je sais que dans les commentaires, ça va dire « Quoi ? T'as pas vu ce film ?» Oui, je n'ai pas vu Incendie de Denis Villeneuve. Mais heureusement, Hassan est là pour nous en parler. Hassan, c'est à toi.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Victor. À l'occasion de la sortie de la deuxième partie de Dune, j'aimerais revenir sur l'un des films les plus importants de la carrière de son réalisateur. Incendie est le film qui a propulsé Denis Villeneuve à l'international. Ce sera d'ailleurs le dernier film qu'il fera dans son Québec natal avant de s'exiler aux États-Unis. Et ça parle de quoi, Incendie? Eh bien, c'est l'histoire de Nawal, une femme immigrée au Canada qui, avant de mourir, laisse un lourd testament à ses deux enfants, Jeanne et Simon. Deux lettres qu'ils devront remettre respectivement à leur père et à leur frère. Les jumeaux vont alors se plonger dans le sombre passé de leur génitrice. Incendie est un film très riche, dont on pourrait parler pendant des heures. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le travail d'adaptation de Denis Villeneuve. Parce que oui, Incendie est à l'origine une pièce du dramaturge libano-canadien Wajdi Mouawad. Ce dernier a d'ailleurs quitté le Liban alors qu'il était enfant, à cause de la guerre civile qui déchirait le pays à ce moment-là. C'est une guerre qu'il traitera d'ailleurs dans la plupart de ses pièces. Incendie ne fera pas exception. Dans cette pièce, Mouawad va remettre en question ses propres a priori politiques en s'inspirant de la vie de la militante Soha Pshar, tout en y insufflant de la tragédie grecque, notamment le mythe d'Œdipe. Il faut savoir que la guerre civile libanaise est un événement assez récent dans les mémoires collectives du pays, s'ayant achevé en 1990 et qui reste jusqu'à aujourd'hui un sujet très 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 sensible. Pour l'aborder, Mouawad a donc décidé de prendre un certain recul en ne mentionnant à aucun moment le nom du pays d'origine de Nawal, en changeant le nom de certaines villes ou même en modifiant la temporalité de certains événements. Le cœur du conflit reste néanmoins là. C'est alors un défi de taille qui se présente devant le cinéaste québécois. Adapter un texte aussi lyrique, presque verbeux que celui de Mouawad sur le grand écran, mais aussi se confronter à un sujet déjà difficile à traiter pour un auteur libanais et carrément suicidaire pour un auteur étranger. Une certaine mise en distance est alors nécessaire. Tout Libanais remarquera que le film n'est pas tourné au Liban, que l'accent arabe des personnages est aussi clairement jordanien. Mais on l'excusera, puisque cela donne au long métrage un caractère universel qui se détache des problématiques politiques. Villeneuve affirme d'ailleurs dès sa scène d'ouverture son intention. C'est le morceau « You and Whose Army » de Radiohead qui ouvre le métrage et non une musique orientale caricaturale que l'on trouverait dans un mauvais film américain. L'intention est claire, les événements seront abordés à travers un regard étranger. Bref, voyez ou revoyez Incendie, un film passionnant, au twist déchirant et au travail d'adaptation unique. Merci à tous de m'avoir écouté et bon week-end.
C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine se termine bien. Merci d'être là après 100 épisodes. C'est complètement ouf. C'était un format très spécial aujourd'hui. Je pense que ça fera moins de vues que d'habitude parce que c'est vraiment réservé aux fans hardcore. Mais vous inquiétez pas, on va revenir avec des sujets beaucoup plus larges dès lundi parce que bah, y aura les Oscars. Donc on va parler des Oscars. En attendant, on va se reposer. On va prendre le week-end un peu pour nous. Vous allez prendre votre week-end un peu pour vous et vous reposez vous aussi. Vous en avez besoin. Vous avez assez travaillé cette semaine. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.